de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos telles que l'histoire aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz sur le site web www.voanews.id. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Pendant le cessez-le-feu, l'armée israélienne a interdit aux résidents déplacés de retourner dans le nord de Gaza. Le partenariat entre l'Indonésie et les Émirats arabes unis joue un rôle important dans le soutien au développement, a déclaré Erlangga. L'UNESCO considère Subak Bali comme un exemple idéal des relations entre les humains et les eaux. Chers amis, nous présentons maintenant le journal incomplet. Israël et le Hamas ont convenu d'un cessez-le-feu de 4 jours. Le cessez-le-feu a commencé vendredi 24 novembre à 7h heure locale. Le porte-parole de l'armée israélienne, Avishai Andrei, a déclaré que le mouvement des résidents à Gaza sera limité lorsque le cessez-le-feu durera 4 jours. Il a souligné que le mouvement des citoyens de la zone sud de la bande de Gaza vers le nord n'est en aucun cas autorisé, mais uniquement du nord au sud. Donc seulement la mobilité des personnes est restreinte. L'armée israélienne limitera également la circulation des camions d'aide humanitaire entrant à Gaza. Les mouvements non coordonnés de camions du sud de la bande de Gaza vers le nord ne seront pas autorisés. Le ministre coordinateur des affaires économiques, M. Erlangga Hartarto, a déclaré que le partenariat entre l'Indonésie et les Émirats arabes unis, qui existe depuis 1976, joue un rôle important dans le soutien au développement de l'Indonésie. L'année dernière, les Émirats arabes unis sont devenus le deuxième partenaire commercial de l'Indonésie parmi les autres pays du Moyen-Orient avec un commerce total de 5,06 milliards de dollars américains. En outre, les Émirats arabes unis sont devenus l'un des principaux marchés de l'Indonésie et l'huile de palme est le produit d'exportation le plus important. Erlangga Hartarto, lors de la 52e réception de la fête nationale des Émirats arabes unis à Jakarta, a souligné vendredi qu'en tant que partenaire d'investissement stratégique de l'Indonésie au Moyen-Orient, la coopération entre l'Indonésie et les Émirats arabes unis a un rôle important dans le soutien au développement de l'Indonésie. L'un des accords est le projet de centrale solaire flottante dans le réservoir de Cirata à l'ouest de Java, qui a été inauguré par le président Joko Widodo le 9 novembre 2023. Erlangga a déclaré que cette collaboration montre l'engagement des deux pays dans le domaine des énergies renouvelables. En dehors de cela, il reste encore beaucoup de place pour des efforts conjoints visant à accroître le volume des échanges et maintenir la balance commerciale. Le directeur et représentant du bureau de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est, Cheikh Baskan a déclaré que le système d'irrigation Subak à Bali était un exemple idéal des relations entre les humains et l'environnement, notamment dans l'utilisation de l'eau. Cheikh Baskan a transmis cela lors de l'ouverture du Forum culturel de Yangtze sur le thème « Des rivières qui coulent, un avenir converge ». La province de Jiangsu, la Chine, vendredi, sous la forme d'un séminaire discutant de la coopération pour surmonter les problèmes fluviaux dans divers pays. Selon Khan, l'UNESCO encourage actuellement la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, à savoir un développement qui coordonne la gestion de l'eau, des terres et des ressources pour maximiser le bien-être social et économique sans compromettre l'environnement. La façon d'y parvenir est d'intégrer la compréhension culturelle et les valeurs de conservation de l'eau aux méthodes scientifiques, y compris faire pression pour des réglementations plus contraignantes dans le développement d'une ville liée à l'eau et à l'assainissement. L'Indonésie et l'Allemagne développent des emplois verts dans le secteur des énergies renouvelables pour réaliser un développement durable et soutenir l'économie verte en Indonésie. Le chef du projet Innovation et Investissement pour la phase 2, 17, Ruli Marianti à Jakarta a déclaré vendredi que ce projet était une collaboration de développement durable entre le gouvernement indonésien et le gouvernement allemand pour promouvoir les emplois verts. Selon Ruli Marianti, ce projet se concentre sur le secteur des énergies renouvelables, notamment le secteur de l'électricité. Le gouvernement provincial de Riau étudie la coopération avec le consulat général du Japon à Medan dans le domaine des énergies renouvelables, d'autant plus que cette région a un grand potentiel pour apporter des contributions dans le domaine des énergies renouvelables. Le consul général du Japon à Medan, Takunai Susumu, lors de sa visite de travail à Pekanbaru vendredi, a déclaré que la coopération était nécessaire parce que le gouvernement japonais et les entreprises japonaises avaient besoin de cette énergie renouvelable. Takunai espère qu'avec le potentiel d'énergie renouvelable de la province de Riau, de plus en plus d'entreprises japonaises investiront à Riau. L'assistant du secrétariat régional de la province de Riau, M. Job Kurniawan, a apprécié le plan, d'autant plus qu'il bénéficie de ressources naturelles abondantes et d'une situation géographique stratégique. Riau est le bon endroit pour investir. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de la région centrale des Moluques, dans la province des Moluques. Le chef du Centre de préservation culturelle de la région Veng, M. Dodi Wiranto, a déclaré mercredi à Ambon que le site culturel de Banda Neira, dans la région centrale des Moluques, sera désigné comme la zone de patrimoine culturel de la vieille ville de Neira. Selon lui, il y a suffisamment de sites de patrimoine culturel à Banda Neira. C'est pourquoi le gouvernement central, par l'intermédiaire de la direction de la protection, de la direction générale de la culture, du ministère de l'éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie, a déclaré qu'elle méritait d'être désignée comme la zone portant le nom de vieille ville de Neira. Il a déclaré que les sites du patrimoine culturel à Banda, entre autres le palais Mili Banda, qui était l'ancien bureau du gouvernement VOC à Banda Neira, la maison d'exil de Bung Hatta, la Fort Belzica, la Fort Nassau et la maison d'exil du Dr. Cipto Mangunkusumo. Dans le cadre du projet de devenir une zone de patrimoine culturel, une cartographie géodésique sera réalisée. Les nouvelles suivantes viennent de la région de Merangin, la province de Jambi. Le gouvernement de la résidence de Merangin, la province de Jambi, propose une formation à des dizaines de guides de tourisme naturel explorant les grottes pour soutenir le progrès du secteur touristique local. Le résident par intérim de Merangin Mukti à Jambi a déclaré mardi que cette formation a été suivie par 40 guides touristiques de grottes de divers sous-districts. Il a souligné que les guides touristiques locaux doivent avoir une attitude professionnelle et responsable dans la gestion et le développement du monde du tourisme. Divers grottes parmi lesquelles choisir à Merangin comprennent la grotte de Sengirin, la grotte de Tiangko, la grotte de Sengayau dans le village de Sungai Binang, la grotte de Kunyit dans le village de Barunalo, le hameau de Petekun, mieux connu sous le nom de grotte de Petekun. Outre la formation des guides touristiques d'exploration des grottes, le gouvernement du district local a également soutenu le développement du secteur touristique à Merangin à travers la formation des guides touristiques de montagne afin d'accroître leurs connaissances en matière de planification et de sécurité pour l'escalade. Mukti a souligné qu'en tant que région dotée de diverses destinations touristiques naturelles, on espère que les efforts de développement déployés pourront encourager l'économie et la communauté régionale en augmentant les services et les visites touristiques. Les nouvelles suivantes viennent de Jakarta. Le gouvernement provincial de Jakarta s'est déclaré ville conviviale pour les scientifiques souhaitant venir mener des recherches sur des sites, des objets historiques et du patrimoine culturel. Lundi, le chef du service culturel provincial de Jakarta, M. Iwan Wardana à Jakarta, a déclaré que cette question parce que les scientifiques ont la capacité d'aider le gouvernement provincial de Jakarta à trouver des reliques historiques ou à prouver la vérité de l'histoire à Jakarta. Il a expliqué que Jakarta a une histoire riche et une culture diversifiée, mais qu'il existe encore de nombreux vestiges historiques qui n'ont pas été explorés et sont connus de là, entre autres l'île Ondrus. Iwan Wardana espère que les recherches menées par des scientifiques nationaux et étrangers pourront accroître les connaissances du public sur l'histoire et la culture de Jakarta. À travers ce programme, il espère que Jakarta pourra devenir une destination touristique historique et culturelle qui attirera des scientifiques du monde entier pour venir mener des recherches. Chers amis, c'est la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie, de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui avec les événements du 25 novembre 1963, les funérailles du président américain John F. Kennedy. John F. Kennedy était le 35e président des États-Unis qui a servi de janvier 1961 jusqu'à son assassinat en novembre 1963. Il a été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Il a été enterré avec un cortège d'honneur militaire au cimetière national Arlington, en Virginie, le 25 novembre 1963. Citant History.com, des dizaines de millions de téléspectateurs ont regardé le cortège funèbre de John Kennedy à la télévision et depuis la Maison Blanche. 19 chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants de haut niveau de 72 autres pays marchaient derrière le cercueil tiré par des chevaux en direction de la cathédrale. Passons maintenant à la journée des enseignants qui est célébrée chaque 25 novembre en Indonésie. En Indonésie, le 25 novembre est célébré comme la journée nationale des enseignants. L'instauration de la journée nationale des enseignants a été déterminée par le décret présidentiel numéro 8 l'année 1994. Cette célébration reflète non seulement l'appréciation du dévouement des éducateurs, mais aussi étroitement lié à la fondation de l'Association des enseignants de la République d'Indonésie. Initialement, les enseignants du gouvernement des Andes néerlandaises étaient réunis dans un forum appelé l'Association des enseignants des Andes néerlandaises. Le syndicat des enseignants a été fondé en 1912 par Raden Mas Ngabehi Dwi Jo Sewoyo. L'objectif de l'organisation est de protester contre inégalité salariale entre les enseignants qui a de divers arrière-plans. L'Association des enseignants des Andes néerlandaises a ensuite changé son nom en Association des enseignants indonésiens en 1932. Après la proclamation de l'indépendance en 1945, l'Association des enseignants indonésiens a tenu un congrès marquant la formation de l'Association des enseignants indonésiens le 25 novembre 1945 à Surakarta. L'Association des enseignants des Andes néerlandaises est née dans une atmosphère tendue lorsque l'armée britannique a bombardé RRI Surakarta. Malgré cela, les enseignants restent unis avec des trois objectifs principaux tels que défendre la République d'Indonésie, améliorer la qualité de l'éducation et défendre les droits et le sort des travailleurs. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec les événements du 25 novembre 1984. Ben Aid a enregistré une chanson pour collecter des fonds pour l'Éthiopie. Le chanteur de groupe de musique de Boomtown Rat, Bob Geldof, a pris l'initiative d'enregistrer une chanson pour collecter des fonds pour les victimes de la famine en Éthiopie. Des dizaines de grands chanteurs britanniques de l'époque, entre autres Sting, Paul Young, Boy George, George Michael, Le Bon et Bono, ont enregistré ensemble le 25 novembre 1984 au studio Sam West de Londres. D'autres musiciens et chanteurs qui ont également enregistré étaient Geldof, Ur, David Bowie, Phil Collins, Paul McCartney. Sous le nom de Ben Aid, ils ont chanté « Est-ce qu'ils savent que c'est Noël ?» écrit par Bob Geldof. La piste vocale a été réalisée en une session marathon de 24 heures, puis commercialisée quelques jours plus tard et créditée à Ben Aid. Grâce à une campagne massive, y compris à la radio de la BBC, Est-ce qu'ils savent que c'est Noël tourné au succès numéro 1 au Royaume-Uni. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Et voici la rubrique Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter. Le gouvernement indonésien collabore avec l'Australie pour renforcer l'écosystème de véhicules électriques indonésiens. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'investissement par intérim, M. Erick Thohir, a signé un protocole d'accord pour établir un mécanisme de collaboration bilatérale pour faire progresser les véhicules électriques avec l'Australie au bureau du ministère des Affaires d'État à Jakarta jeudi 24 novembre. La signature a été réalisée par Erick Thohir et le ministre australien de l'Industrie et des Sciences, Ed Husic. M. Erick Thohir a déclaré que cette collaboration était le résultat de la confiance internationale dans le potentiel de développement de l'industrie des véhicules électriques en Indonésie. Citant un rapport de l'agence de presse Antara, Erick Thohir a expliqué que l'Indonésie et l'Australie sont des pays voisins qui entretiennent des relations étroites, tant en termes de relations intergouvernementales, interentreprises et intercommunautaires. Ces bonnes relations sont un moteur pour les deux pays à renforcer leur coopération pour accroître le développement de l'industrie des véhicules électriques. Eric a déclaré que la collaboration était également conforme à l'engagement du gouvernement à encourager l'accélération des véhicules électriques pendant la transition énergétique actuelle. Avec une population estimée à 315 millions d'habitants, Eric a déclaré que les véhicules électriques pourraient être une solution à un certain nombre de problèmes environnementaux et maintenir la sécurité énergétique nationale. Eric a ajouté que le gouvernement a pris position et doit continuer à encourager le développement des véhicules électriques afin que non seulement ce soit un pays qui produit des véhicules électriques, mais que l'Indonésie dispose également d'un vaste marché. Eric est optimiste que le développement de l'industrie des véhicules électriques aura un impact important pour l'Indonésie, entre autres sur la croissance économique. Il estime que cela contribuera également grandement à encourager l'ouverture de nouvelles opportunités d'emploi pour la communauté. Avec le protocole d'accord signé par l'Australie, Eric Thohir a promis que l'Indonésie disposerait le mois prochain d'une feuille de route pour mettre en œuvre concrètement la coopération entre les deux pays. Auparavant, lors d'une réunion avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Pahala Nugraha, le ministre australien de l'Industrie et des Sciences et Physique a souligné que la signature du protocole d'accord constituait l'engagement de l'Australie à collaborer dans le domaine des batteries des véhicules électriques. Il s'agit d'une mise en œuvre de l'accord entre le président Joko Widodo et le premier ministre Anthony Albanese lors de la réunion annuelle des dirigeants en juillet 2023. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Burning my bright through the city in the night. Looking for the spotlights to shine, shining down on me so bright. Driving my ride through the city in the night. Everything is good and all right. We're gonna party till the morning light. We're gonna party.
Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la place de Slili à Yogyakarta. Yogyakarta est connue pour son tourisme naturel diversifié. L'une d'entre elles est la place de Slili. Cette place, ou aussi appelée la place de Watu Lawang, est située sur la route de la place de Krakal, tepus Gunung Kidul, Yogyakarta, environ 70 km du centre de la ville de Yogyakarta. La place de Slili est décorée de nombreux gros rochers et d'imposantes falaises. La vue sur la place de sable blanc combinée avec la mer bleue ajoute également à la beauté de cette magnifique plage. Les vagues de la place de Slili ont tendance à être calmes, ce qui la rend idéale pour les visiteurs qui souhaitent jouer dans l'eau sur le rivage. Regardez le lever et le coucher du soleil depuis la place de Slili. Peut également être le bon choix parce que la vue est très bonne. Après avoir payé le billet, en plus de pouvoir visiter la place de Slili, vous pourrez également visiter 9 autres places dans cette région. Pour ceux qui utilisent des véhicules privés, des frais de stationnement seront facturés en fonction du type de véhicule. Il existe diverses autres activités intéressantes qui peuvent être pratiquées sur la place de Slili, comme se détendre tout en dégustant de la nourriture et des boissons vendues sur le stand au bord de la plage. Et si vous souhaitez tester votre adrénaline, vous pouvez gravir la colline située entre la place de Slili et la place de Krakal. En grimpant au sommet de la colline, d'une hauteur, vous pourrez admirer une vue vraiment imprenable sur la plage. Chers amis, c'était le magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Intitulé La place de Slili à Yogyakarta. Merci à tous, à bientôt.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter les étudiants de UNSUT gagnent grande exposition des inventions de la Malaisie en 2023. Le monde de l'éducation indonésienne a une fois de plus réalisé des progrès sur la scène internationale. L'équipe de recherche de l'Université Jenderal Sudirman a remporté une médaille d'or ainsi que le meilleur prix dans la catégorie Innovation de créativité internationale lors de la grande exposition des inventions de Malaisie 2023 le mercredi 15 novembre 2023. La grande exposition des inventions de Malaisie 2023 est un concours dans le domaine de la science et de la technologie organisé par l'Association indonésienne des jeunes scientifiques en collaboration avec l'Université Technologie Mara du 1er jusqu'au 15 novembre 2023. La grande exposition des inventions de la Malaisie a réuni 63 équipes de recherche de diverses universités de différents pays dans les catégories créativité et innovation, sciences et technologies, sciences sociales et sciences de l'éducation. L'équipe de recherche de l'Université Jenderal Sudirman qui a remporté le meilleur prix du concours a été nommée l'équipe des petites filles du général avec les membres Zurna M. Awalia, Alfi Nuraini, Lamia Babazir, Devia A. Sopian, Ahmad Faizi, Alif Ardandi, Mahila Asana, Akila R. Ardiningrum, sous la direction du professeur Dr. Maria Dianur Menita. Ils ont présenté les résultats de leur recherche intitulée « De collate optimisation de l'extrait de poils de maïs et de la chlorella vulgari combinée à la plante stevia comme gelée fonctionnelle pour le contrôle du diabète sucré ». Leurs recherches ont été inspirées par un problème de santé dont souffrent souvent la plupart des gens, à savoir le diabète sucré. Le diabète est devenu l'une des 100 maladies non transmissibles qui font le plus de victimes en Indonésie. Les données de l'OMS montrent que l'Indonésie est le 4e pays au monde avec le plus grand nombre de personnes souffrant de diabète sucré. Après l'Inde, la Chine et les États-Unis, avec un nombre estimé de personnes atteintes de diabète sucré atteignant 21,3 millions de personnes en 2030. La recherche qui a reçu une médaille d'or a réussi à introduire le produit de collate comme une forme d'utilisation des déchets de cheveux de maïs qui sont assez abondants avec une combinaison de microalgues chlorella vulgari qui peuvent être consommés pour aider à contrôler la glycémie, qui s'est avérée efficace à un prix abordable pour toutes les couches de la société. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Oh,
Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons vous présenter d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine Musica. Dans cette édition, nous vous présentons la chanson originale de Keroncong intitulée Yang Terdalam, magnifiquement présenté par Music Story 97. Yang Terdalam est la huitième chanson du premier album de Peter Pan, Taman Langit, sorti en 2003. Cette chanson a été écrite par Nazril Ilham, ou mieux connu sous le nom de Ariel. Ariel a partagé qu'il avait écrit la chanson Yang Terdalam alors qu'il était encore lycéen à l'école en 1998. Ariel a d'abord appelé Yang Terdalam juste une chanson de test, mais ses amis l'ont aimé. Cela a incité Ariel à essayer de créer de nouvelles chansons. Cette chanson est unique car elle n'a pas de refrain. La chanson Yang Terdalam parle d'une personne qui a des sentiments profonds et sincères pour son idole. Malheureusement, il semble qu'il doive oublier ses sentiments car son idole ne lui a pas laissé une chance. Bon, chers auditeurs, voici Music Story 97 avec la chanson intitulée Yang Terdalam. Bonne écoute!
Thank you.
La rubrique musicale ainsi se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Rendez-vous demain et merci à tous.
Laju laju perahu laju.
Jiwa manis indung disayang.
Indung 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 sayang. Lancunya ada senyum manis ke surat. Buah duku,
hey.
Buahlah duren,
hey.
Sayalah tunggu,
hey.
Dari kemarin. Ya lupa kain dan lupa baju.
Jiwa manis indung disayang.
Indung, 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 indung sayang. Jangan mesin,
hey.
Kapal udara,
hey.
Bangun mendusin, dengar suara. An ular naga is an fruit slang.
Jiwa manis indung disayang.
Indung, 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 indung sayang. An anjelir, schat senyum manis. Is een mooie plant. Door regen,
hey.
Worden kleren nat.
Hey.
Wees niet verlegen, jij bent toch mijn schat. Mijn ogen zien, schat, mijn hart die verlangt.
Jiwa manis indung disayang.
Indung, 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 indung sayang. Autofiat,
hey.
Mobil tambangan,
hey.
Boleh dilihat,
hey, hey.
Diambil jangan.
Voice of Indonesia.
Selalu